Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
De 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Chers amis, vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous appeler au 7-39-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure, ou peut-être de me voir lire votre SMS à l'antenne. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment, en tout cas un moment particulier. Et puis, j'en profite pour avoir une petite pensée et faire d'énormes baisers à Hervé et Sylvie, qui sont deux personnes que j'ai rencontrées vendredi soir lors de l'émission sur France 3 qui était consacrée au Téléthon. Deux charmantes personnes, Hervé et Sylvie, les crêpes du Braise Truck, présentes donc au Téléthon et présents dans votre région parisienne, puisque ces deux Bretons qui font d'excellentes crêpes sont avec leur food truck aux couleurs de la Bretagne. Et j'espère que vous aurez la chance de déguster leurs excellentes crèmes avec un tout petit peu de caramel. C'est Florian. Lui, il a mangé du caramel, pas moi. On accueille Christophe maintenant au 39-21. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Christophe? Est-ce que vous souhaitez nous dire d'où vous nous appelez et quel âge vous avez?
Je vais rester vague. Bon, déjà, c'est un prénom d'emprunt.
D'accord.
Nouvelle-Aquitaine.
Nouvelle-Aquitaine.
Et j'ai 57 ans.
Vous avez 57 ans, d'accord. Dites-moi ce qui vous amène, Christophe.
Alors, ce qui m'amène, c'est que je suis a priori un homme qui avait une vie tout à fait normale, qui était marié 20 ans, qui a 3 enfants adorables, et depuis mon divorce, ça a un petit peu basculé. C'est pourtant moi qui avais souhaité le divorce.
Oui.
Mais voilà, je pensais refaire ma vie tranquillement, on va dire. J'ai laissé passer plus d'un an avant d'envisager de rencontrer une nouvelle femme. Et puis, j'ai rencontré une femme donc, avec qui c'était parfait pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, elle a fait un burn-out.
Oui.
Donc, professionnelle. Hein. Elle travaillait dans le milieu du handicap, l'éducation nationale.
Oui.
Travailler 70 heures par semaine, enfin bref, et un jour elle est tombée de ses escaliers et elle s'est fracturée la mâchoire, d'ailleurs irréparable, et puis bon, elle est sombre en dépression. Elle s'est mise à boire, elle était placée en mi-temps thérapeutique, elle s'était installée chez moi en ce mi-temps thérapeutique. Et un jour j'ai vu que donc elle avait caché un cubi sous un fauteuil.
Oui.
Donc, je lui ai dit que c'était pas possible, ça, qu'il fallait qu'elle se fasse soigner. Et alors, nous, on buvait ensemble le soir, mais bon, pas. Voilà, je rentrais le midi et donc elle avait déjà bu. Donc, elle s'est faite interner. Donc, pendant un an, j'ai navigué de psychiatrique en hôpital psychiatrique où elle a été déplacée de Hoche après à Balma, et à chaque fois je devais faire la route parce que son père, qui était pourtant retraité, voulait systématiquement me bloquer le week-end, et donc j'étais obligé de prendre une journée de congé pour aller la voir. Et puis au bout d'un an, ça n'allait toujours pas. J'ai discuté avec sa mère, que ses parents étaient divorcés, et on a convenu qu'il valait mieux mettre un terme à cette relation qui de toute façon pour moi n'était pas vraiment pas bonne, et puis qu'elle ne voyait pas sa fille de toute façon sortir de là. Donc, j'ai effectivement rompu difficilement parce que c'est quelqu'un qui je tenais vraiment, et voilà, je me sentais un peu coupable de l'abandonner dans cet état-là.
Oui.
Et un mois après, je suis convoqué au commissariat et le commissariat me dit qu'on a déposé plainte contre moi pour menace de mort. Et j'apprends que c'est, non pas cette femme, puisqu'elle était sous curatelle,
oui,
mais en faisant parler sa fille, son père. Mais évidemment, je n'avais jamais fait de menace de mort du tout.
Alors, que je comprenne bien, oui, cette femme dont vous venez de parler, qui était votre, oui, compagne, qui avait, oui, ses problèmes de burn-out et ensuite qui a été, oui, hospitalisée, oui, la plainte venait d'elle, mais via son
via
père.
Son tuteur, voilà.
Son tuteur qui était son père.
Voilà.
D'accord.
Et la femme en question n'était même pas au courant de la plainte.
D'accord.
Et j'avais d'ailleurs encore sa voiture dans mon garage. Enfin, voilà, je devais lui rendre, mais je n'avais pas monopolisé sa voiture du tout. Hein, mais elle ne s'en servait pas, puisqu'elle était. Et donc, elle me l'avait prêtée, puisqu'elle n'avait forcément pas besoin, puisqu'elle était toujours hospitalisée. Donc, elle ne pouvait pas convenir, de toute façon. Voilà. Enfin, c'est pour dire que. Il n'y avait pas du tout de rupture entre nous, néfaste. Enfin voilà, c'était fait d'un commun accord, même si ça a été difficile pour elle, je le sais, mais pour moi aussi. Enfin, ce n'est pas du tout de gaieté de cœur que j'avais fait cette option. Je vous disais aussi avec le conseil de sa mère, et qu'effectivement, moi, je n'en sortais plus au bout d'un an à la compagnie, je ne voyais vraiment aucun progrès. Donc au tribunal, donc j'y vais en me disant. En gros, c'est une blague, quoi. Enfin,
ah oui, vous êtes convoqué au tribunal, carrément.
Ah oui, oui, oui.
C'est-à-dire que la plainte est instruite,
oui,
et le procureur prolonge donc...
Je suis en garde à vue, et après, comparution immédiate.
D'accord.
Et condamné à un an et demi avec sursis. Un an et demi avec sursis.
Est-ce qu'on vous a expliqué quelles étaient ces menaces de mort, comment elles avaient été formulées, dans quel cadre? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus dans un premier temps?
C'est le père qui a dit que j'avais fait des menaces de mort à sa fille.
C'est tout.
Simplement.
C'est tout.
C'est tout. C'est juste des accusations de son père, de sa fille, entre guillemets, mais c'est pas sa fille. C'est son père qui a fait cette plainte et qui m'a accusé d'avoir menacé sa fille.
D'accord. Oui, ça, j'ai bien compris, mais il n'y a pas de... Encore une fois, là, on est parole contre parole. Vous voyez, moi, j'ai un peu du mal avec tout ça.
Justement, parce qu'en fait, là, je vous parle de l'histoire, d'une histoire, mais ce n'est pas celle-là qui m'amène en plus ici. C'est pour qu'il y ait le début, parce que tout à l'heure j'ai discuté longuement,
d'accord,
gentil avec Julia, et pour expliquer pourquoi j'en suis arrivé à cette situation que j'ai eue.
D'accord.
Donc la connaissance a eu, me connaissait, si vous voulez, par cette première affaire.
Première étape, donc, vous prenez un an et demi sur des accusations que vous dites fausses, que vous réfutez totalement.
Quoi, elles sont complètement fausses. J'ai jamais menacé aucune femme de ma vie, et encore moins elle. Jamais j'ai menacé cette femme. Mm-hmm. Au contraire, je vous dis, j'ai passé un an à tout faire pour essayer de la sortir de là. Je ne sais pas pourquoi je l'aurais menacée de mort. J'ai tout fait pour, au contraire, la protéger. Savoir qu'elle m'appelait carrément au bureau quand elle était en mi-temps thérapeutique parce qu'elle avait envie de se suicider, etc. Que j'étais obligé de dire à mon chef de service, il faut que je rentre parce que ma compagne veut se suicider. Des choses comme ça.
Oui.
Donc ça a été compliqué pour moi. En plus, à l'époque, j'avais divorcé, donc j'étais avec trois enfants ados. À gérer en plus cette femme, c'était pas simple.
Compliqué.
Voilà. C'était compliqué. Et alors, honnêtement, moi, c'est rentré par une oreille, sorti par l'autre. J'avais jamais eu affaire à la justice, donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'ai à nouveau à rencontrer la justice. Donc, j'ai laissé tomber l'affaire. Je n'ai pas fait appel, j'ai rien dit. Un an et demi avec sursis. Je me suis dit, c'est du sursis. À quoi ça sert que je me batte, que je prenne un avocat? Voilà, j'ai rien dans les faits, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai rien qui change ma vie.
D'accord.
Ensuite, donc, un an après, je rencontre une autre femme. Et c'est là que les problèmes vraiment vont devenir avec la justice importants. C'est que tout va très bien hein, avec cette femme. On a vécu, on n'habitait pas ensemble, mais il était question qu'elle fasse une demande de mutation. Enfin, de mutation, elle est chef d'entreprise, donc elle voulait changer, fermer son entreprise et partir sur Paris. Et il était question que je l'accompagne et que je la suive et tout, alors que j'ai vécu 27 ans déjà à Paris. Honnêtement, c'était pas de gaieté de cœur, mais c'était parce que je l'aimais, que parce qu'il y avait sa fille qui était là-bas, qu'elle se rapprochait de sa fille, qu'elle voulait changer complètement d'orientation, qu'elle en avait ras-le-bol de son métier, que ça se passait mal. Et voilà. Donc, ok. Puis finalement, elle change d'avis par rapport à son métier, finalement, parce que c'est, si vous voulez, elle a pas le même public, on va dire, dans son entreprise d'une année à l'autre. Et cette année qui s'était très mal passée, elle avait fait dire bon stop. Puis finalement, elle a repris une année avec d'autres personnes et ça s'est passé très bien. Donc du coup, bon, c'était abandonné cette histoire de partir sur Paris. Et bon, tout va bien. Donc 2 ans, beaucoup de voyages, beaucoup de choses plaisantes, même si parfois il y avait des attitudes de sa part un peu choquante, enfin, qui a choqué notamment ma famille, puisque à une réunion à l'occasion du décès d'une tante, elle a fait un esclandre pas possible par rapport à un je sais pas comment ça s'appelle, un pavillon, enfin avec des choses où on était hébergé gracieusement d'ailleurs par mon oncle, et par rapport à un emplacement qu'elle a pas trouvé, elle parlait de partir, de rentrer, de quitter comme ça. Directement de ne pas revoir la famille le lendemain. Donc, elle s'est embrouillée, notamment avec mon frère, mais avec d'autres. Enfin, voilà. Elle avait des réactions parfois un peu caractérielles, on va dire. Et, mais bon, quand c'était qu'avec moi, ça se passait bien. Mais c'est quelqu'un qui est quand même très sauvage, qui n'a pas du tout de vie sociale. À part son entreprise, elle n'a pas de vie sociale. Chez elle, j'expliquais à Julia, il y a une grande table de salle à manger, il y a 4 terrasses, mais il n'y a jamais personne. Jamais personne. Même sa mère qui venait lui amener ses déchets verts alors qu'elle a 75 ans, elle n'invitait même pas à prendre un café. Et après, elle parlait de son frère en disant que son frère c'était un radin, mais son frère, on allait régulièrement manger chez lui. Il organisait des repas jusqu'à 50 personnes chez lui. Elle, j'ai jamais vu faire ça. J'ai jamais vu personne chez elle. Bon, bref, je tombe malade. Alors, je pourrais parler du Covid aussi. Hein. Vous m'entendez, Olivier ?
Oui, je vous entends très bien.
Je pourrais parler du Covid aussi parce que quand même, c'était un peu spécial. C'est-à-dire que j'ai a priori attrapé le Covid, moi, dès décembre 2019. Mon chef de service revenait de la région de Wuhan en Chine. Il était malade. Il a continué à venir au travail, chose qui n'est pas très prudente. Pendant 2 mois, alors qu'il ne fume pas, qu'il est en bonne santé, il toussait, il toussait, il toussait. Moi, je suis tombé malade comme lui. On se tutoyait, je suis allé le voir dans son bureau, je l'entendais tousser toute la journée. Hein. Il était de l'autre côté du couloir, c'est tout, c'est en face du mien. Et je lui ai dit, mais tu vas pas voir le médecin, ça fait 2 mois que tu tousses, même ici. Mais j'ai suivi 2 traitements antibiotiques, ça n'a rien fait, c'est viral, ça passe ce que c'est. Et ben, je lui ai dit, moi j'ai exactement la même chose. Moi aussi, j'ai eu 2 traitements antibiotiques. Et puis, en janvier, on découvre qu'il y a, ce virus s'appelle le coronavirus. Mais à l'époque, il n'y a aucun test qui sont faits. Ils sont faits que sur les gens qui ont des 4 comorbidités. Malgré une ordonnance de médecin que j'avais le 18 janvier 2020, on m'a refusé, on m'a mis dehors d'un laboratoire. Donc on ne nous testait pas du tout. Personne n'était testé à part les gens qui arrivaient à l'hôpital ou qui étaient vraiment en 4 comorbidités. Je suis très 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 fatigué. Je perds l'odorat, donc les symptômes qui correspondent vraiment à ça. Ma sœur est médecin, elle m'a vu aussi pendant les fêtes de Noël. Elle a vu que effectivement j'avais tous les symptômes de ce nouveau virus. Sachant que mon médecin généraliste, lui, est ancien directeur de laboratoire, mais qui me disait que les tests, de toute façon, ils étaient bidons. Bon. Il s'avère quand même que, d'ailleurs, vous avez encore eu quelqu'un qui vous a parlé de faux négatifs, il me semble, il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'il y en a encore toujours des faux négatifs, ou alors, de toute façon, ils ne sont pas fiables. Ils sont fiables qu'à 70%, je crois, maximum. Donc, bon. Je retombe malade en début mars, fin février, début mars 2020. Et mon médecin pense que c'est le Covid, mais pareil, toujours pareil, je ne peux pas être testé. Donc, il me met en quarantaine pour fiabiliser la situation, quoi. À ce moment-là, c'est le premier confinement. On ne peut plus sortir de chez soi. On peut faire un kilomètre à la ronde, une heure. Pas si vous vous rappelez, mais voilà, c'était...
Si, je me souviens très bien.
Voilà, c'était très compliqué. Moi, je me voyais mal, et l'autre, ma compagne donc, qui m'a amené en prison, puisque c'est ça qui va être la suite, préfère qu'on passe le confinement chez elle plutôt que chez moi. Même si je ne trouvais pas ça très logique, puisque chez elle, il n'y a rien, quoi. C'est un lotissement, c'est... Même faire un tour d'une heure, c'est pas, y a rien. Voilà. Alors qu'autour de chez moi, il y a des parcs, enfin voilà, il y a de la vie. J'habite en ville. Bon. Bref, je m'installe chez elle. Et elle a continué à être en télétravail. Moi, je suis donc malade, hein, très fatigué. Et bon, la période est un peu glauque. Vraiment un peu glauque. Les voisins qui sont tous confinés, qui habitent ce lotissement, ils passent leur temps à bricoler et à jardiner avec la tondeuse, enfin, tout ce qui termine en euse, meuleuse, perceuse, tondeuse, enfin tout ce qui est en euse, qui est tout autour, dans tout quartier, donc c'est bruyant. Moi j'habite pourtant en ville, c'est super calme chez moi, on peut chuchoter dans mon jardin à n'importe quel moment. Chez elle, c'était très bruyant. Il faut aussi rappeler que j'avais arrêté de fumer en janvier, donc peut-être que ça a joué aussi sur le fait que je ne supportais pas ce genre de choses. Qu'elle avait deux chiens qui aboyaient tout le temps aussi, au moindre passage, comme les gens se promenaient beaucoup plus qu'à l'accoutumée, puisque d'habitude c'était au travail et que là, bah, ils faisaient leur tournée dans le quartier, bah, les chiens aboyaient tout le temps. Mmh. Et qui est obligé de laisser sa porte-fenêtre ouverte pour que les chiens puissent rentrer et sortir. Donc, bon, c'était très bruyant. Et suite à mon divorce, moi, j'avais trouvé comme solution pour rembourser le crédit que je devais suite au divorce. Parce que ça aussi, j'en ai parlé à Julia, mais on parle souvent des divorces et de la situation des femmes. Enfin, beaucoup d'hommes se trouvent dans une situation très délicate suite à un divorce, que des prestations compensatoires, par exemple, ne sont jamais versées, quasiment jamais, à des hommes, quasiment systématiquement à des femmes, je le sais, puisque je travaillais dans ce domaine, et que vraiment, c'est très, très, très exceptionnel que ce soit la femme qui doit verser une prestation compensatoire à un homme. Vous avez d'ailleurs parlé aussi de la garde alternée avec quelqu'un l'autre fois. C'est vrai que pour qu'un homme puisse avoir la garde alternée, à la limite, il faut qu'il... Enfin, je sais pas, qu'il fasse des pieds et des mains pour avoir droit à la garde alternée, quoi.
Tout dépend. S'il y a la guerre, oui, bien évidemment. Il faut faire des pieds et des mains. Il y a des couples où ça se passe très bien.
Et que dans ces cas-là, l'avantage est toujours donné à la femme. Enfin,
oui.
Hein, quand même, en grande majorité.
Oui.
Ce que je ne trouve pas très, très juste. Enfin, voilà. Enfin, pour continuer là-dessus, donc, comme j'avais des revenus locatifs chez moi, en fait, à mon domicile, que comme elle avait souhaité qu'on passe le confinement chez elle, moi, j'avais dû renoncer à un loyer de 2 mois. Hein, j'avais dû dire à un locataire, je suis désolé, mais je ne serai pas chez moi, donc je ne peux pas laisser ma maison, désolé. Bon, il l'a mal pris, mais bon, voilà. D'ailleurs, il a pu se permettre, et je vais le dire parce que les méthodes de Airbnb, je tiens à ce qu'elles soient quand même dénoncées, c'est que cette personne, alors que je ne l'ai pas hébergé, a pu quand même mettre une note sur ma location.
C'est-à-dire que vous, le temps que vous étiez chez cette dame, en fait, vous avez loué votre appartement.
Je devais le louer, mais j'ai dû y renoncer puisque je venais pour le confinement chez elle. Donc, je n'allais pas laisser ma maison toute seule, si vous voulez, à un locataire que je ne connais pas.
D'accord. Hein. D'accord.
Donc, j'ai dû renoncer à cette location. Parce que moi, en fait, c'est des chambres que je loue dans ma maison, chez
D'accord.
moi.
D'accord. C'est pour
Donc,
ça que
après,
je ne comprenais pas.
Toute ma maison.
D'accord. Vous ne pouviez pas laisser un étranger, oui,
bah,
qui pouvait se balader.
Je laisser ma
d'accord.
maison entière à quelqu'un
d'accord,
qui
d'accord,
m'a
d'accord.
une chambre.
Ok.
Voilà, sans que je puisse contrôler quoi que ce soit. Donc. Donc j'ai renoncé à cette location, mais du coup, moi, j'avais besoin donc de revenus complémentaires et je me suis mis à la bourse pendant le confinement. Et ça a très, très bien marché. Pour vous dire, j'avais 8000 euros d'épargne. En un mois et demi, je me suis retrouvé avec 20 000 euros. Donc j'avais gagné 12 000. Donc ça a marché très bien. Mais par contre, effectivement, moi, je le faisais... de tête, je ne faisais pas du tout avec un logiciel qui fait les ventes et les achats systématiquement, enfin automatiquement, c'est moi qui faisais toutes les démarches, les ventes et les achats. Donc je suis parti de deux actions, je suis arrivé à 17-18 actions. Et donc ça me prenait beaucoup de temps, mais en même temps ça m'occupait, ça me permettait de ne pas penser à ce coronavirus, à cette ambiance un petit peu délétère avec ma compagne, puisque elle avait sa fille tous les jours au téléphone. D'habitude, je participais à la conversation avec sa fille. Là, elle partait dans le jardin, ça durait une heure au lieu d'un quart d'heure. Et puis, elle faisait une drôle de tête et elle a fini par m'avouer que sa fille était gravement malade. Je lui ai posé la question une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, dix fois. Elle me disait jamais ce qu'avait sa fille. Bon, et puis sa fille, elle ne s'inquiétait pas du tout de savoir comment j'allais, alors que j'étais là malade, hein, je me rappelle. Bon, enfin bref, ça se passait donc moyen.
Pas très bien même, je dirais.
C'était de la cohabitation plus que de la vie de couple.
Mm-hmm.
Je l'aidais dans les tâches ménagères, dans passer la tondeuse, etc. Passer l'aspirateur, enfin bon, voilà. Je dois rentrer chez moi pour aller travailler. Je ne travaillais pas tous les jours puisque à cause des mesures sanitaires et je travaillais dans un bureau, on ne pouvait pas être plus que deux dans un bureau. Donc je ne travaillais pas tous les jours. Donc là, je rentre chez moi pour aller travailler. Hein, c'est à une trentaine de kilomètres de chez elle. Et en plus, on devait m'installer la fibre. Et qu'on m'avait proposé. Je n'avais rien demandé, puisque moi, ça marchait très bien chez moi. J'avais le haut débit. Et
d'accord. Christophe, essayez de... Parce que vous donnez beaucoup de détails, je suis désolé,
oui.
Comme on n'a pas beaucoup de temps.
Oui.
D'accord.
Bien sûr. Bien sûr. Enfin, pour dire que quand je suis arrivé avec cet installateur de free, il y a eu un pétage de plomb, si vous voulez, parce qu'en fait, il arrivait déjà une heure en retard. Ça devait prendre que 10 minutes. Il me demande où est la ligne, mais c'est lui le technicien, moi j'en sais rien. Je veux dire, j'ai une grande maison, où est la ligne, je ne sais pas. Je sais où était ma box avant, mais je ne sais pas où est la ligne. Donc il ne trouve pas la ligne. Midi arrive, il n'a toujours pas trouvé la ligne, il part, il revient une heure après ou une heure et demie après. Et il finit par trouver la ligne, il finit par installer la fibre, mais je n'ai plus rien qui marche. Parce que j'avais trois télés, les trois télés marchaient très bien. J'ai deux télés pour les locataires, une pour moi, puisque je voulais deux chambres. Et plus rien ne marchait, pas d'internet, plus de télé, plus de téléphone, rien. Le téléphone fixe, voilà. Et il s'en va. Et je lui dis, mais vous ne pouvez pas me laisser comme ça, j'ai plus rien qui marche. C'est vous qui avez insisté pour venir, vous m'avez dit que ça prendrait 10 minutes. Ça a pris toute la journée, du coup vous m'avez monopolisé toute la journée, je n'ai même pas pu aller tourner ma pelouse, parce que moi ça faisait 2 mois que je n'étais pas chez moi. Et vous me dites que voilà, c'est fini. Mais il me dit, mais vous inquiétez pas, je reviens, je vous fais ça au black samedi.
Okay. Est-ce que tout ça a à voir avec...
Ça a à voir parce que là, j'ai pété un plomb.
D'accord.
Là, j'ai mis gentiment ce monsieur dehors, mais je peux vous dire que ça bouillonnait en moi.
D'accord.
J'étais déjà
ça a été
en surmenage.
Le truc qui vous fait donc péter les plombs.
Le petit truc qui fait déborder le vase.
D'accord.
La cocotte minute qui explose avec ça.
Ce que je comprends parfaitement.
J'étais quand même censé avoir fait des choses chez moi. Et puis, du coup, j'ai rien pu faire de la journée. Et que le soir, je devais rentrer chez ma compagne. Et qu'en fait, j'étais pas du tout ni en état de rentrer d'aller chez elle. Et qu'en plus, je me posais des questions par rapport à elle, par rapport à notre couple. Et qu'en fait, je voulais rester chez moi. Voilà. Mais je n'osais pas l'appeler, je savais qu'elle le prendrait mal. Du coup, c'est elle qui m'appelle. Mmh. Et là, c'est crise d'hystérie. Je lui dis que rien n'est définitif. Je lui dis, mais moi, j'ai besoin de rester quelques jours chez moi, au calme, et de réfléchir à nous deux. Voilà. Et on se raccroche. Elle raccroche le téléphone. Et voilà, bon. Ensuite, j'essaie de la rappeler. Elle bloque le téléphone. Je ne peux pas la rappeler. Plus tard le soir, je vais pour fermer mes volets. Et qu'est-ce que je vois devant chez moi? Je vois ma voiture que je lui avais prêtée et mon chat enfermé dedans. Alors, je regarde autour si elle est dans les parages. Personne. Alors, j'étais déjà pas bien. J'ai trouvé cette manière très expéditive, surtout que je l'avais dit au téléphone que je n'étais pas chez moi. Donc ça veut dire qu'elle a abandonné mon chat dans une voiture et qu'elle était repartie.
Pauvre
donc
chat.
Je réussis à rentrer la voiture en étant complètement sur les nerfs dans mon garage. Je sors le chat. Je vois qu'elle a mis toutes mes affaires aussi, mais ça, je n'ai même pas la force de les sortir. Et je vais pour refermer mes volets que j'avais laissés ouverts, donc du coup. Et,
mais elle avait mis les clés où? Parce que vous prenez votre chat quand même.
Comment?
Elle avait mis les clés où? Parce que votre chat, vous le sortez de la voiture quand même. Le chat,
le chat qui était
dans votre voiture. Vous avez les clés.
Clés de ma voiture.
D'accord,
moi.
Ok, très bien.
J'avais double de mes clés.
D'accord, ok.
Et donc je perds connaissance et après avoir fermé les volets. C'est un ami qu'elle avait empêché de rentrer chez moi, parce que j'ai su qu'après, qui était venu pour me voir, et elle avait dit que je voulais voir personne. Lui, il avait trouvé ça un peu bizarre, il est parti, et donc il habite juste à côté, il est revenu, et il est venu chez moi. La porte était ouverte, pas fermée à clé, il est rentré, parce qu'il était trouvé bizarre que je ne réponde pas quand ça sonne, et donc c'est lui qui m'a refait prendre connaissance. J'avais fait un malaise vagal, quoi, qu'on appelle un malaise vagal. Le cœur qui battait très très vite, enfin voilà. Après, ben, je suis tombé en. J'ai réussi de le lendemain de...
Déjà,
je suis allé voir le médecin, tout de suite. Tout de suite, j'ai été voir le médecin, qui m'a mis sous antidépresseurs, anxiolytiques, arrêt maladie, voilà, pour 2 mois. Et impossible de la contacter. Après, pour moi, ça c'était insupportable de ne pas pouvoir la contacter en fait. C'était insupportable de se quitter comme ça dans le silence, de manière aussi violente. J'avais jamais vécu ça comme rupture. Et vu mon état psychologique à ce moment-là, suite à mon burn-out, j'avais pas toute ma raison. Je lui ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails.
Beaucoup, c'est-à-dire ?
Mais plus de 1000.
Ah oui, oui ça fait beaucoup.
De 6-8 mois.
D'accord.
Bon, en gros, ça fait, mon avocat a fait le calcul, ça fait 5 par jour.
5
alors,
par jour, d'accord.
La plupart avaient la taille d'un SMS. Hein. Mm-hmm. Mais bon, voilà, il y en avait beaucoup.
Dans ces mails, vous lui disiez quoi ?
Il n'y a aucune menace, il n'y a aucune insulte, il n'y a aucune violence. On voit bien que je cherche à lui parler. Quoi. Voilà.
D'accord. Un amoureux comme un amoureux est conduit, en fait.
Voilà, je lui propose de vraiment qu'on se voit, qu'elle soit accompagnée avec quelqu'un si jamais elle avait des raisons d'avoir des craintes qu'elle n'avait pas.
Oui.
Voilà. Mais rien à faire, elle ne répond pas. Voilà. Et puis, je finis par arrêter complètement. Donc, j'arrête complètement, je ne contacte plus du tout, je recommence à aller mieux. J'arrive, parce que pendant ces mois, j'arrivais même plus à sortir de chez moi. J'arrivais même pas à sortir de chez moi. J'étais invité, ça s'est arrivé donc début mai, jusqu'à fin juillet, j'ai pas réussi à sortir de chez moi. Alors, mon médecin m'avait proposé de me faire interner, mais moi, comme j'avais accompagné la compagne d'avant, et que j'avais vu comment ça se passait, qu'on bourrait les gens de médicaments, que j'avais vu surtout aucun progrès sur elle, j'avais pas du tout envie de faire ça. Donc, j'avais refusé dans un premier temps de me faire interner. Et puis, fin août, ça commence à aller mieux. Alors, j'ai repris le travail, le 2 juillet, mais tout en demandant à mon chef de service si c'était possible de réduire mes horaires parce que j'avais du mal à faire toute la journée. Mais il m'a dit que c'était pas possible, qu'il fallait attendre le 1er janvier pour pouvoir changer de mode horaire. Donc du coup, j'arrivais à faire 6h30 par jour, mais pas plus. Donc du coup, je créditais ce qui manquait dans mes heures par des congés que j'avais sur mes congés. Et en août, je finis par réussir à aller dans ma région d'origine, ou la Bretagne, où des amis m'ont invité pour aller faire du kayak. Et jusqu'à la veille, je ne savais même pas si je serais capable de faire une valise. Donc j'ai prévenu, je lui dis, pour l'instant, je ne vous assure pas encore, je vous dis si je ne viens pas, évidemment, je vous préviens, mais je ne suis pas certain d'y arriver. Bon, finalement, j'y arrive, mais enfin, on voit la panique puisque je suis arrêté, j'avais repris de fumer. Je m'arrête au bureau de tabac et je vais à la gare à pied. Et j'ai fait 500 mètres, le train n'était pas, heureusement, j'étais en avance. J'avais oublié ma valise au marchand de tabac. Je suis retourné chercher la valise. Voilà, je passe mes vacances en Bretagne et tout va beaucoup mieux. Ça m'a fait un bien fou. Je vois des amis, d'ailleurs, ces amis, c'est un couple d'amis, dont une ex avec laquelle je suis resté 4 ans, et avec qui on est resté en très bon terme. Et voilà, et d'ailleurs, elle était au courant, celle qui a porté plainte contre moi, on avait été chez eux et tout, elle savait que c'était mon ex.
D'accord. Donc, il se passe quoi, vraiment, là, il faut qu'on arrive à ce qui va se passer, je pense, enfin, ce que je pressens. Vous rentrez de vacances.
Alors, donc... Je rentre de vacances, tout va bien, le travail reprend, tout ça. Et après, petit à petit, je diminue, j'écris quasiment plus. Je retrouve la forme physique, tout ça, parce que j'avais perdu 15 kilos. Tout va bien, je rencontre des amis, je me fais des nouvelles connaissances, parce que je pense que j'avais souffert aussi beaucoup de solitude. Puisque, en fait, moi, ma famille est loin. Et j'avais pas d'adulte, j'avais un seul adulte à qui parler, mais qui est très souvent en voyage. Très souvent absent. Donc en fait, j'ai énormément souffert de solitude. Et pendant que je commençais à aller mieux, j'ai rencontré des amis, notamment un qui est vraiment resté ami, qui m'a vraiment soutenu, et une amie aussi.
Je suis en train de vous perdre, Christophe, là. Vous avez dû bouger. Ouais, ça va mieux, là.
Ça va mieux ?
Oui.
Dès que je bouge, d'accord. Et je m'étais juste levé pour remettre mon pull dans mon... Voilà. Alors, donc, tout va mieux. Et j'arrête complètement d'écrire. Voilà. Et le 18 janvier, j'ai un appel de la police. Je suis convoqué pour un témoignage.
Téléphone. Faites attention, vous avez rebougé là, je vous perds.
Non, je n'ai pas bougé.
Je vous entends, mais je vous perds de temps en temps. Donc, Non, là, je vous perds complètement. Je vous perds.
Et là, vous m'avez
pas... là, je vous ai complètement, là. Ça y est, c'est bon.
Ah bon, bah, je vais juste tourner de côté.
Bah oui.
Bon. Donc, le 18 janvier, je suis convoqué par la police pour témoignage. Et en fait, j'apprends que ma compagne a déposé plainte contre moi.
Pour harcèlement.
Pour harcèlement moral. D'accord. Elle a déposé plainte le 26 octobre. Le 27 octobre. On est le 18 janvier. Sachant que moi, j'ai eu vent pas du tout de cette histoire, que je n'écris plus du tout à cette personne, j'ai plus aucun contact avec elle. J'ai même rencontré une autre femme. Et quand
oui, elle a déposé plainte, et le temps que ça soit instruit, ça vous voilà. revient le 18 janvier.
Voilà. Et là, je tombe de ma chaise. Et en plus, elle dit que je lui fais peur et que j'ai un fusil. Alors oui, j'ai un fusil qui appartenait à mon ancien, à la personne qui m'avait vendu la maison et qui était toujours resté au grenier. Et je lui avais montré un jour. Et une locataire, son fils était allé dans mon grenier et avait dit « Oh là, mais il ne faut pas laisser ça à la portée des enfants ». Bon, en même temps, je n'avais pas loué le grenier. Hein. Mais bon, j'ai rien dit. Et du coup, j'ai pris ce fusil, j'ai montré à ma compagne ce fusil et je l'ai mis dans un endroit qui reste toujours hors la vue. Parce que moi, mon but, c'était qu'il reste hors la vue. Il est toujours resté hors la vue, jamais manipulé une arme. Et moi, c'était une arme de collection. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui date de
d'accord,
la guerre
14. D'accord, vous avez un fusil. S'il vous plaît,
donc,
venez-en,
j'ai
en fait.
Compris que c'était de la mauvaise foi de sa part parce que elle sait très bien que j'ai horreur des armes. Que je ne sais même pas m'en servir, que c'est quelque chose qui ne doit même pas marcher, et que... Enfin voilà, si vous aviez vu ce fusil, même dans la presse, ils en ont parlé, ils ont rigolé de cette arme. Mais à côté de cette arme, parce que je suis allé donc avec la police menottée chez moi pour leur montrer où était cette arme, à côté de cette arme, il y avait... un papier. Je ne sais pas ce que c'était que ce papier. Et je l'ai découvert qu'après, en prison, plus tard. Et donc, je suis mis en garde à vue.
C'est quoi
donc,
ce papier
vue,
c'est quoi
ce
papier.
Vous voyez ce que c'est, garde à vue, mais voilà, ouais, c'est ouais. pas très cool. Hein, c'est une cellule voilà, enfermée, il n'y a rien. Pas de téléphone, évidemment, pieds nus. On sort sur un truc en béton. Avec un petit matelas, voilà, c'est tout. On n'a pas le droit de fumer. Voilà.
Non, la garde à vue.
Voilà. Le lendemain, je passe en comparution immédiate et je prends un an de prison. Non, attendez. Non, on me met en prison, 2 ans de détention provisoire, voilà. 2 mois de détention provisoire. Et c'est là que ça montre aussi que, on va dire que j'ai tendu le bâton pour me faire battre, c'est que pendant ces 2 mois de détention provisoire, je ressors parce que mon avocat me fait sortir plus tôt que ces 2 mois. Moi, je ne vais pas demander, mais bon, il me fait sortir avant. Il me dit, de toute façon, t'inquiète pas, tu me prendras... C'est dans l'attente d'être jugé, hein, la détention provisoire. T'inquiète pas, de toute façon, tu n'auras que du sursis, nanana, nanana. Le problème, c'est que je suis sous contrôle judiciaire, que je dois rentrer d'aucune manière en contact avec cette femme. Qu'est-ce que je fais ? Comme un abruti, parce qu'évidemment, il ne fallait pas le faire, j'écris 2 mails, gentils, en disant « j'espère que ta famille va bien, voilà, que tu ne m'en veux pas trop, etc. » Et je lui dis, mais sans aucune menace, que je pense que ça serait bien que tu retires ta plainte pour qu'on se quitte en bon terme. Et bien là, c'est rejugé, donc. Jugement...
Oui, vous êtes elle reporte plainte, c'est ça ?
Oui, elle redépose plainte.
Et ouais.
Ça, c'est 2 mails pourtant bienveillants. Hein. Pourtant bienveillants. Et là, je suis jugé donc, le 26 janvier. Et là, je prends donc un an ferme. Je rappelle que mon avocat avait dit qu'il était certain que j'aurais au maximum du sursis. Je prends un an ferme. Il y a un premier appel qui est fait. Ça, c'est pendant ma détention provisoire. Hein. Et je sors le 12 février, donc suite à l'appel de mon avocat, mais dans l'attente du jugement définitif. Moi, j'avais été voir mon médecin en janvier suite à sa plainte, vu que ça n'allait pas du tout, du coup, parce que j'avais rechuté suite à sa plainte, et que j'avais peur de réécrire et tout ça, donc je voulais me faire interner. Cette fois-ci, j'avais admis le fait de me faire interner. Comme ça, je n'aurai pas de portable, je ne pourrai pas la contacter, puisque c'était le cas de mon ex-ami, on leur enlève le portable, etc. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Comme ça, problème, c'est que je n'avais pas de place avant le 20 avril. Et un soir, j'ai bu avec des amis. Et puis après, bah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réécrit des mails. Toujours des mails gentils, hein,
oui.
Mais deux ou quatre, enfin quatre, je crois, quatre. Et bien là, le 13 avril, elle a donc trop déposé plainte. Le 13 avril, la police débarque chez moi, alors que je devais aller donc en cure le 20, et que je l'avais mis, hein, dans mon mail, que je partais en cure. Donc elle était au courant, la police était au courant. Ils sont venus une semaine avant que je parte en cure. Et que je n'avais pas réécrit depuis. Hein. J'ai écrit une seule fois, quatre mails, et c'est tout. Je n'ai plus réécrit après. Donc j'ai été jugé le 14 avril. Et là, j'ai pris, comme je n'avais pas respecté le contrôle judiciaire, et qu'ils n'ont pas du tout tenu compte de mon état de santé, deux ans ferme. Deux ans ferme pour ça. Pour n'avoir jamais menacé cette femme, jamais violenté. Enfin, tout le monde, y compris les policiers, trouvait ça complètement aberrant. En attendant, c'était jugé.
Et en attendant, ferme. C'était deux ans ferme et vous avez été arrêté à la barre ?
Ah ben là, c'était à la barre et j'ai été mis en prison directement.
Mmh. Oui, c'est très deux lourd. C'est très lourd.
Ben, très, très lourd.
Très, très lourd.
Très, très lourd, sachant que j'ai un passé quand même où j'ai vécu 20 ans avec une femme, il n'y a jamais d'histoire, qui a eu une lettre de mon épouse pour dire que j'étais un mari pas du tout violent, etc. Que j'ai un autre témoignage de ma sœur qui disait qu'il fallait peut-être tenir compte de l'état de santé de moi, de son frère. Voilà, qu'évidemment que si j'avais été dans mon état normal, j'aurais pas réécrit des mails. Mais en attendant, même, quand bien même je les ai écrits, ces mails, ils n'étaient pas violents, ils n'étaient pas menaçants, ils étaient, voilà. C'est vraiment parce qu'elle avait de la malveillance à mon égard qu'elle a déposé plainte. Elle n'était pas obligée de redéposer plainte. On n'a pas forcé à déposer plainte. Hein. Et ben malgré tout, la cour donc, a écouté sa soi-disant peur. Ah oui, parce qu'aussi, elle avait fait déplacer, je l'ai appris par son avocate. Il faut savoir quand même aussi, quand on est jugé comme ça, il y a très peu de place à la défense. Hein. C'est d'abord le juge qui parle, ensuite le procureur, ensuite l'avocat de la partie civile, c'est-à-dire la partie qui se plaint, et ensuite seulement l'avocat de la défense. Mon avocate, en l'occurrence, avait rien à faire de mon cas. Elle a quasiment parlé deux minutes, alors que moi, j'ai dû entendre parler au total plus d'une heure avant. Donc quand moi, j'avais à me défendre, il y avait tellement de choses qui étaient fausses, qui étaient trop de choses. Il aurait fallu que j'ai un papier, un stylo pour écrire. Et j'avais pas, je ne pouvais pas monopoliser le temps. En plus, je suis passé le soir à plus de 20 heures. J'étais convoqué à 8 heures moins le quart le matin. Ça a été repoussé 5 fois la séance. Et clairement, ils étaient fatigués. J'arrive à comprendre. Mais enfin, bon, deux ans ferme pour ça, quoi. Deux ans ferme.
Oui, oui. Vous avez...
Donc j'arrive en prison, tout le monde était sidéré, hein, évidemment, tout le monde. Je vais en prison, tout le monde me conseille de ne pas faire appel.
Ah bon ?
Ah oui. Le SPIP, c'est-à-dire celui qui est... ça s'appelle le service pénitentiaire.
Ouais, le SPIP, ouais.
Voilà. Me dit non, le chef de détention me dit non, l'avocat me dit non.
Ah bon ?
C'était
quand même très lourd.
J'arrivais pas à joindre en prison. Il faut savoir qu'on n'a pas de téléphone en prison là aussi. Hein. Il faut savoir qu'on peut appeler quand la cabine marche. Parce que dans une cabine où on était, dans une cellule où on était 9 pour une cellule de 6, et que c'est le cas de toutes les cellules, c'est-à-dire qu'il y avait 3 personnes au sol. D'accord ? Sur 9, 3 au sol. Il y a une cabine de téléphone dans la cellule. Donc les communications intimes, bonjour. Il y a une toilette, un toilette avec une porte battante dans la cellule. Ça aussi, c'est très intime. Il y a une télé qui marche quand elle veut, qui est toute petite en plus. Enfin voilà, et on est à 9 dans une cellule de 6. Et toutes les cellules sont comme ça. Et la presse, j'ai lu un article, ils ne savent pas compter, certains journalistes, puisque ils disaient qu'il y avait plus de la moitié des prisons qui étaient en surnombre, et ils arrivaient, alors qu'il y a 70 000 détenus en France, ils arrivaient à un chiffre de 1 000 détenus au sol. Or, plus de la moitié des cellules, ça fait 35 000. Donc, avec une personne au sol...
Non, mais bien sûr, ça fait beaucoup de monde
au sol. Plus, quoi. Il y a au moins 5 000 personnes au sol en France, dans les prisons françaises.
Là, vous étiez dans quelle prison, en fait ? Vous avez été détenu dans quelle prison ?
Je ne peux pas vous dire.
D'accord.
Sinon, ça va être trop précis.
D'accord.
Mais c'est en Aquitaine. Mais okay. c'est la quasi-totalité des prisons françaises qui sont comme ça. Parce qu'on dit dans la presse, oui, il faudrait faire plus de prisons parce que quelque part, les policiers ne vous mettent pas en prison parce qu'il n'y a pas de place en prison. Mais en tout cas, je peux vous dire que où je suis, c'est qu'il y a une ville tranquille. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont en prison. Hein, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de passe qui les empêche de mettre les gens en prison. Mmh. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus dans cellules qui sont dans mon cas, qui n'ont pas fait de violence, qui n'ont pas... Enfin voilà, on ne s'imagine pas. Et beaucoup de gens qui n'ont même pas encore été jugés, qui sont depuis 2 ans et demi, 3 ans en prison sans même avoir été jugés.
Je comprends que vous ayez été choqué, bien évidemment, par ces conditions de détention. On ne va pas faire le débat de la prison ce soir et je serais ravi de le faire si vous qui nous écoutez, vous avez envie de nous témoigner, comme Christophe le fait ce soir, des conditions de détention. Comme il ne nous reste que 6 minutes, moi j'ai envie de savoir comment vous voyez ce qui s'est passé en fait par rapport à cette femme à qui vous avez écrit 1 000 alors bien évidemment, oui. Ça ne vaut pas 2 ans de prison, ça ne vaut pas de prison du tout, hein, je parle de détention.
Que j'avais arrêté de le faire, c'est surtout ça. Mais... que quand même la justice aurait dû tenir compte du fait qu'entre le moment où j'ai reçu la plainte, sachant qu'en plus, la veille de sa plainte, elle écrit à ma sœur un mail où nulle part elle parle de harcèlement. Pas à un seul instant. Elle dit que je lui écris des mails, trop de mails, etc., que je la fatigue. Pas du tout. Et elle porte plainte le lendemain.
Ouais.
La justice n'a absolument pas tenu compte de ça. Ni la police, d'ailleurs.
Là, vous avez en fait votre sursis à sauter, déjà, de la première histoire. Quand vous aviez pris 1 an et demi, vous savez, pour menace de mort. C'était sur votre casier, puisque vous aviez un casier. Quand votre ex, là, a porté plainte harcèlement, et ça en était du harcèlement, hein, permettez-moi de vous le dire, hein, Christophe, je le prends comme ça. Moi, je pense que 1 000 mails comme ça, ça peut être pris.
Oui, je comprends que le nombre fasse peur, mais en même temps...
Il n'y a pas de contexte.
En même temps, je peux vous dire quelque chose. Si je peux... si moi, je reçois des mails que je ne veux pas recevoir, hein, je fais bloquer l'expéditeur, et c'est simple.
Oui, non, mais bien évidemment,
Donc, elle a laissé faire volontairement. Il y a un côté malveillant de sa part.
Il y a, de toute façon, sûrement dans votre histoire, un couple qui se déchire et de vieilles rancunes, l'un envers l'autre.
Non, parce que
plainte,
moi,
cette plainte, bon,
on entendait parler de pardon. Moi, je lui avais entièrement pardonné. Je l'avais même pardonné. Ma sœur ne comprend pas que je lui pardonne. Mais si, je lui pardonne. Parce que il faut passer par le pardon pour sortir d'une histoire comme ça. Ça ne sert à rien si on est dans la
bien
vengeance.
Bien évidemment.
Moi, je pas du tout par esprit de vengeance.
Mais
absolument
vous savez,
pas.
Là, visiblement, elle a parlé du fusil. Elle a parlé des 1 000 mails. Aviez déjà un antécédent pour menace de mort, donc ce qui est considéré comme un type de harcèlement, hein, aussi.
Tout à fait.
La justice vous a condamné pour ça, et c'est vrai que vous avez payé très lourd, j'en conviens. Ouais. Je conviens que 2 ans de prison pour ça, c'est vraiment très très lourd.
Surtout, si vous voulez, je suis fonctionnaire, que ça a des implications sur mon travail aussi.
Bien sûr, je comprends. Maintenant, vous convenez, aujourd'hui, je suppose, vous qui avez pardonné, que on n'écrit pas 1000 mails à une femme comme ça.
Évidemment, si j'avais été dans mon état normal, je n'aurais pas écrit ces mails.
Et ça, en fait, vous évoquez, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous évoquez votre état donc en dépression. Hein. Ça a été, vous l'avez fait constater, ça ? Vous avez fourni les pièces au tribunal
Bien sûr, il y avait le dossier dans lequel j'étais attendu.
C'est très, très sévère.
Sept jours après le jugement, bien sûr qu'ils avaient tous les éléments. C'est ce que disait ma sœur, d'ailleurs, un courrier qu'elle avait remis à mon avocat, que mon avocat a lu, il n'avait pas été du tout tenu compte de mon état de santé mentale à ce moment-là.
Et est-ce que, donc, au bout du compte, vous avez fait combien de temps d'incarcération ?
Au bout du compte, j'ai bien fait de faire appel malgré tout ce qu'on m'a dit. J'ai pris un an.
D'accord.
Scindé en deux, il y a eu confusion de peine. Scindé en deux, en 9 mois de détention. Et 3 mois sous surveillance électronique.
D'accord.
Sauf que dans les faits, j'ai tout fait en détention. Il n'avait pas, tenez-vous bien, de bracelet électronique.
Eh oui. Donc pas de bracelet électronique, pas de liberté.
Donc ils n'appliquent même pas les peines qu'ils infligent.
Mmh.
Donc moi j'aimerais que la justice montre un petit peu son... Et surtout que j'avais le droit à 63 jours de réduction supplémentaire de peine pour bonne conduite, pour avoir suivi des formations, etc. J'avais le droit à 63 jours que la juge m'a retiré un mois au prétexte que je n'avais pas payé la partie civile. Or, moi, j'avais manifesté dès le départ mon intention de payer la partie civile et que la comptable de la prison lui a laissé plusieurs messages sur son portable pour qu'elle l'envoie son RIB. Elle n'a jamais envoyé son RIB.
Oui.
J'ai donc fait appel de cette décision. Il n'y a que 24 heures pour faire appel de cette décision. J'ai fait appel de cette décision. Elle a confirmé quand même, la juge, malgré la preuve par la comptable qu'elle avait effectivement fait la demande à plusieurs reprises, qu'elle avait laissé des messages sur le portable de la victime, et que cette personne n'avait jamais remis le RIB.
Mais je pense que de toute façon, vous êtes tombé aussi dans un contexte particulier. Vous n'auriez pas dû réécrire, ça c'est... Là vous avez fait une erreur, mais vous en avez convenu vous-même. Réécrire au moment où vous sortez, c'est là où vous êtes tiré une balle dans le pied.
Bien sûr.
C'est malheureusement... Non, mais je conviens que vous avez vraiment pris très cher. Je conviens que c'est dur de faire un an d'incarcération. Non pas que je minimise, encore une fois, le harcèlement et la conduite que vous avez eue, mais ça ne méritait pas, bien évidemment, ne serait-ce qu'un jour en prison de détention. La détention étant vraiment quelque chose de... on prive de liberté. Christophe, merci en tout cas pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Ça nous montre combien il faut faire attention dans nos rapports aux uns et aux autres lorsque une guerre larvée se déclare. J'espère en tout cas que ça ira pour vous maintenant, Christophe, et je vous souhaite évidemment... plein de courage. Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve bien évidemment tout demain à partir de 22h30. Nous serons là, toute l'équipe de la libre antenne de la semaine sera là. J'espère que vous serez là, vous aussi. N'oubliez pas qu'ici on vous aime, que vous pouvez nous parler de vous comme et quand vous en avez envie. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous embrasse, à demain. Salut.